l'immunité acquise par une assaise et par un pouvoir que l'on a ou que l'on acquiert sur soi-même, la dignité, elle est pour tous. Et pour le manifester, vous le savez bien, il va mettre en exergue la guérison du lépreux qui est rejeté socialement, la réconciliation avec le changeur des impôts au profit de l'État romain, c'est pour ça que Matthieu devient un évangéliste. Il va réintégrer le zélote terroriste anti-romain à côté du pécheur, parce que la dignité est pour tous. Et cette dignité-là, tout d'un coup, n'a plus grand-chose à voir. Alors évidemment, le christianisme n'est pas le premier à parler de l'universalité de la dignité, puisqu'il est présent dès la Genèse, à partir du moment où l'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'Adam, tout seul, et puis que sa descendance n'est pas concernée. Le poème de la Genèse nous dit qu'on est tous à l'image de Dieu, et que si on est à l'image de Dieu et une partie de Dieu quelque part, à notre manière, eh bien forcément on en est digne. Mais c'est vrai que l'Évangile l'affirme encore plus, la dignité est un don indépendant de nos mérites et s'applique à tous les êtres humains, affirme saint Thomas au 13e siècle. C'est-à-dire que la dignité est un fait qui vient de la nature même, de notre statut de créature. Et puis, notre dignité peut nous ouvrir à quelque chose d'autre qui est l'amitié. C'est ce que ouvre le Christ. Il ne nous appelle pas simplement à être des dignes étrangers, mais à être des amis dans sa maison. Donc on voit bien que ce n'est pas une dignité de façade, c'est une dignité réelle, active, effective. Il est évident que pour être ami, il faut avoir mis la tenue de noces, c'est-à-dire que nous sommes dignes potentiellement, nous sommes potentiellement dignes de l'être. Il faut évidemment participer à ce projet et que notre volonté fasse que nous mettons les habits de noces. Alors, on pourrait s'arrêter là presque, mais ça serait déséquilibré parce que ça ne prendrait pas en compte dans l'histoire de la philosophie une autre manière d'approcher la question. Et là, auparavant, avant d'en venir au reste de la philosophie, il faut voir que la dignité que le Christ a montrée a permis en fait que les chrétiens expriment leur foi par la charité et qu'il leur semblait inconcevable que quelqu'un puisse être complètement démuni, malade, sans que on puisse reconnaître sa dignité. Et c'est la création des fameux hôtels-dieux du Moyen-Âge, c'est la création de ce laïcat militant que l'on appelait à l'époque les pénitents, les confréries, les ordres, les tiers-ordres, qui sont toutes ces femmes et ces hommes du peuple qui n'avaient pas de statut de clerc, qui n'avaient rien de particulier, sauf leur conviction de la dignité de l'autre, notamment du plus indigent. Et ça, ça a mis en route, en fait, des pays entiers, notamment dans nos pays. On a toute une histoire qui vient de cette dignité. La dignité n'est pas une anecdote. La dignité, en fait, est une véritable colonne vertébrale et dont nos sécurités sociales et les caisses d'allocation familiale sont des avatars qui viennent évidemment de l'histoire qui a eu une réaction à la fois d'éloignement d'une partie de ce qu'apportait l'Église, mais de ratification de cette acceptation de la dignité. Et la charnière entre les deux, en fait, c'est Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant est un philosophe qui est évidemment difficile à lire. Il faut toujours être aidé pour approcher. Et dans un de ses livres qui s'appelle « La métaphysique des mœurs », il va reprendre finalement, au nom de la rationalité, le concept de dignité. Par exemple, je vous lis, « Simplement considéré comme personne, c'est-à-dire comme sujet d'une raison moralement pratique, l'homme est au-dessus de tout prix, car en tant que tel, il doit estimer, non pas simplement comme moyen en vue de fin d'autrui, ni même en vue des siennes propres, mais comme fin en soi, c'est-à-dire qu'il possède une dignité intrinsèque, absolue, par laquelle il force à son égard le respect de tous les autres êtres raisonnables de ce monde. » Et là, on voit bien que Kant, l'inventeur du citoyen autonome qui va être repris par les philosophes des Lumières et les constructeurs de la pensée de la Révolution française, met la dignité au cœur. Cette dignité est associée à un autre concept philosophique qui est l'autonomie, auto-soi-même, nomos, la loi, se donner des lois pour vivre, c'est-à-dire avoir le droit de vivre tel qu'on l'entend, dans le respect du droit commun. Et la dignité, en fait, est à la source de cette autonomie, et cette autonomie est à la source de la citoyenneté. Et cette citoyenneté autonome, pour une personne digne, est à la source, évidemment, de tous les mécanismes de solidarité dont nous sommes tous bénéficiaires tous les jours, à des degrés divers. Mais ça fait partie de notre pacte laïque et républicain, et on voit bien qu'on a une sorte de filiation. Je me permets de dire dans mon petit ouvrage qu'il n'y aurait jamais eu Kant sans le christianisme sur la question de la dignité, et que nous n'aurions jamais eu une ratification aussi complète de cette dignité s'il n'y avait pas eu Kant. On est un peu les fruits des deux, en fait. Mais ils vont dans le même sens, avec une approche évidemment différente, parce que la dignité du christianisme, c'est une dignité qui nous ouvre, je l'ai dit tout à l'heure, à l'amitié, et si on parlait des fins dernières, dans le langage thomiste, c'est notre salut, la dignité, en fait. C'est notre salut, c'est-à-dire d'être tout en tous, que Dieu soit tout en tous, et qu'on puisse être face à face avec Dieu, dans l'amitié. Donc ça, c'est le salut ouvert par le Christ, par le côté saignant du Christ. Évidemment, Kant n'est pas sur ce chapitre-là, il ouvre sur l'égale dignité pratique et effective de chacun. Dans, chez Kant, il n'y a pas non plus de reniement de la dignité que l'on conquiert. D'ailleurs, Kant a une très très jolie expression. Il dit « j'aimerais que l'on mette en épitaphe sur ma tombe une phrase qui dit « Toute ma vie, je me suis émerveillé du ciel étoilé et de ce que la morale soit intrinsèque à la vie humaine. » On a vraiment l'impression que la cohérence morale de la vie faisait partie de la beauté du monde pour Kant. On a dans ce contexte-là de la dignité deux dimensions, vous l'avez bien compris, une dimension qui est personnelle et une dimension qui est collective. Et lorsque l'on traite du vieillissement, on a ces deux dimensions. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la question de la fin de vie. Eh bien, la dignité dans la fin de vie doit épouser les deux dimensions. Il y a une première dimension, on va dire collective. Comment permettre que chacun ait une fin de vie digne? Et vous savez que dignité est associé à autonome, et donc, qu'il soit selon nos voeux. Et bien collectivement, cela dépend de notre capacité à développer soin d'accompagnement, de l'accompagnement et par ailleurs des soins de fin de vie. Alors on appelle ça les soins palliatifs, c'est pas très beau, donc voilà. Palliatif, ça veut dire qu'on n'a plus grand-chose d'autre à faire. C'est un langage médical des années 80. Mais les soins dits palliatifs ou les soins d'accompagnement de fin de vie, je pense qu'il faut qu'on assume une révolution culturelle là-dessus. Et le médecin qui est présent dans la salle peut sans doute réagir à ce que je dis. Je pense qu'il faut en effet multiplier les équipes de soins palliatifs, mais que ça ne sera jamais suffisant. Il est évident qu'aucune loi ne doit faire qu'on n'ait plus recours aux soins palliatifs. C'est évident qu'il faut les développer. Mais si on veut une fin de vie digne pour tous, on ne peut pas dire que l'ensemble de la population soit tributaire d'une activité spécifique. Et c'est pour ça que je pense, en tant qu'enseignant à l'université, à la faculté de médecine, il faut que nous passions, je dirais, à la vitesse du dessus et que nous mettions l'accompagnement de la personne, de sa dignité, de son autonomie tout au long de la vie, mais en particulier dans cette période de vulnérabilité, comme au cœur de l'enseignement de la médecine. L'enseignement de la médecine aujourd'hui a en son cœur la capacité à faire un diagnostic et les meilleurs traitements. C'est vrai que c'est important, hein, et la capacité à faire un diagnostic va se changer assez rapidement avec la survenue de l'intelligence artificielle et qu'on ne va pas du tout faire les diagnostics comme on le fait aujourd'hui dans une dizaine d'années. Et d'autre part que sur les traitements, la standardisation des traitements fait que le travail est différent. Par contre, accompagner une personne, ben c'est vraiment au cœur du métier. Et c'est ça que l'on cherche quand on rencontre un praticien, un clinicien, un homme de l'art, et pas pour avoir un ordinateur qui fait le diagnostic, c'est une personne qui accompagne. Il faut que cet enseignement sur les soins palliatifs et à l'accompagnement, il soit également au cœur de l'enseignement pour les infirmières en IPSI, et aussi pour les aides-soignantes, et que ça ne soit pas réservé à la psychologue du service, mais que ce soit véritablement une compétence partagée, avec un enseignement de l'empathie, avec un enseignement à l'écoute, et que ça soit véritablement un point cardinal de la formation des soignants demain. Il faut qu'on démocratise les soins palliatifs, pour que lorsque l'on rencontre un soignant, on est avec une personne qui est attentive. Quelquefois, on voit des services qui se désengagent en disant « on va appeler l'équipe de soins palliatifs ». En gros, ce n'est pas notre job. Ben ça, il ne faut plus que ça soit. Si on veut que ça soit pour tous, il faut véritablement qu'on fasse une sorte de révolution culturelle sur l'accompagnement des personnes, notamment des plus vulnérables. Alors en fin de vie, on est tous vulnérables, c'est universel. Le cours de la vie, il y a des vulnérabilités différentes. Au CHU de Nantes, j'ai demandé de pouvoir animer une mission et ça a été accepté par la direction et par l'ensemble des médecins. C'est une réflexion sur comment accueillir une personne vulnérable, quelle que soit sa vulnérabilité. Une personne handicapée, une personne âgée, une personne migrante, une personne pauvre, une personne socialement en perte de repères. Et nous sommes en train de mener ce travail dans tous les services du CHU pour véritablement avoir une approche systémique. Et je pense que pour répondre aux enjeux et aux défis, il faut qu'on passe vraiment à la vitesse du dessus. Il faut aussi qu'on développe les infirmières de pratique avancée en soins palliatifs. Et ça, c'est un peu technique. Je passerai vite. La deuxième aspect, et je finirai là-dessus, c'est la composante personnelle. La dignité de manière personnelle en fin de vie. Eh bien, cette dignité pourra s'exprimer si les personnes qui sont autour sont à l'écoute de la personne, à l'écoute de son souhait. Et cette écoute, elle doit être active. Ça veut dire qu'elle doit être critique, non pas contre, mais critique dans le sens de permettre à la personne d'avancer dans sa réflexion, d'avancer dans son approche. Quand on a une personne qui manifestement a une dépression en phase grave et qui dit qu'elle veut mourir, il faut pouvoir discuter avec elle et prendre en compte la dimension de cette dépression qui est parfois profonde et qui représente à elle seule une souffrance. La souffrance, ce n'est pas simplement la souffrance du corps, il y a aussi la souffrance morale. Il faut aussi interroger la dignité dans des demandes de suicide assisté. Il faut pouvoir être en dialogue empathique et avancer ensemble, cheminer. On n'est pratiquement jamais dans une urgence absolue dans ces questions-là. Ça peut arriver en réanimation, mais la très grande majorité, c'est un processus qui est lent. C'est un processus qui est évolutif, récidive d'un cancer, avec des douleurs nouvelles, des traitements qui ne semblent pas efficaces, une lassitude, un isolement, un sentiment d'indignité, une envie d'en finir. Il est vraiment très important que l'on soit présent, présent de manière active. Ça ne résout pas tout, mais ça résout beaucoup de choses. Je pense que sur d'autres questions d'ordre moral et de la vie, parfois, les chrétiens catholiques en France ont eu une position ferme et un peu conceptuelle et peu présent finalement sur le service après-vente des injonctions. Et il faudrait que pour cette question de la fin de vie, on soit véritablement présent, présent au cœur de l'humain, et qu'on soit d'un laïcat militant en Église pour que véritablement il puisse être mis en place à l'échelle de chaque paroisse, de chaque communauté, de chaque fraternité qui se monte dans un diocèse, une capacité d'accompagnement empathique qui soit fait en lien évidemment avec les familles et avec les professionnels. Et vraiment cette présence d'Église est vraiment capitale. Parfois il est bon de défiler, parfois il est bon de s'asseoir. Les temps sont différents, dirait l'Ecclésiaste, un temps pour tout. Et je pense que sur cette question-là, il ne faut pas qu'on se sente spectateur d'une loi qui viendrait qu'on pourrait critiquer et critiqueur d'un réel dont on serait spectateur. Il faut véritablement qu'on soit acteur. Et je pense que la dignité que l'on porte en nous, qui est bien plus grande que nous, qui est trop grande pour nous, mais dont nous habille le Christ, nous met dans une situation d'acteur, là où on est, en vérité, simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.